tracé ensemble nous amène au deuxième temps du culte de l'épiphanie, avec la méditation, en trois temps, de Serge Lochu. Écoutons-la.
Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup d'images à propos des mages. On dit souvent d'ailleurs les rois mages. On ne connaît pas le nombre, on les représente souvent par trois. En fait, est-ce qu'ils sont trois? Est-ce qu'ils sont trente? Ils n'ont pas de nom. On les a appelés Melchior, Gaspard et Balthazar, mais bon. Et puis, quelquefois, on les représente avec un visage blanc, un visage jaune et un visage noir, et là aussi. Alors, en fait, il arrive que les religions, au fil des siècles, soient amenées à étoffer, en fait, l'écriture pour des raisons de pédagogie et peut-être aussi pour des raisons de dogme. Donc, le texte dit qu'ils viennent de l'Est, qu'ils sont mages. Alors, être mage, ça veut dire verser dans la lecture des astres. On dirait aujourd'hui astrologue. Certains pensent qu'ils auraient pu être disciples de Zarathoustra, en raison de l'intérêt de cette religion ancienne, qui date de 1500 avant Jésus-Christ, pour l'astrologie. Il semble aussi qu'être mage, dans le contexte de l'époque, comportait une dimension de sagesse. Alors, ce que je vous propose, c'est de relever trois aspects, en fait, de ce récit, et puis ensuite de voir quel enseignement on peut tirer de ces trois aspects que nous avons relevés. Trois aspects, leur quête originelle, quelle était leur démarche au départ, leur approche, que je trouve assez pragmatique, et enfin, dans un troisième temps, l'entrée dans ce qu'on pourrait appeler une nouvelle dimension. Donc, leur quête originelle. D'abord, ils ont repéré un astre inhabituel. Ce sont des astrologues, des gens savants. Et on peut supposer que leur recherche était due par des motivations mêlées. On a du mal à se représenter la façon dont Dieu était perçu à cette époque. Je pense que dans toutes les cultures, et pas simplement dans la culture juive, pouvoir, religion et science étaient mêlés. Et ce n'est peut-être que récemment que la question de l'existence de Dieu comme telle se pose. Auparavant, jusque peut-être au XVIIIe siècle, la question était de savoir comment être dans de bonnes relations avec Dieu, mais pas « Dieu existe-t-il ?». La question « Dieu existe-t-il » ne se posait pas. Donc, leur recherche aboutit apparemment à interpréter l'apparition d'un astre comme le signe de la naissance récente d'un nouveau roi chez les Juifs. Et on peut supposer que cet événement les bouleverse suffisamment pour qu'ils se mettent en route, parce que c'est une chose de se dire, ben voilà, il y a quelque chose qui se passe, mais ensuite prendre des chameaux, etc., partir sur la route. Et on peut supposer également que leur motivation était d'ordre autant spirituel que d'ordre politique ou scientifique, comme on le disait tout à l'heure. Ils ont osé quitter leurs chères études de savants et prendre la route pour tenter de rencontrer ce roi dont ils n'avaient perçu l'existence jusqu'alors que dans la lecture des étoiles. Ça, c'est le premier point, c'est le démarrage, la quête, l'impulsion de départ. Alors ensuite, le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est le côté pragmatique de leur approche. D'abord, ils vont à Jérusalem. Qui dit juive, ben, on va à la capitale. Ce qui paraît normal, puisque c'est la capitale. On peut supposer que leur délégation avait une certaine allure, parce qu'ils sont remarqués, et que, comme le dit le texte, leur annonce cause le trouble dans la population, et peut-être surtout chez le roi en titre, le fameux Hérode. On peut le comprendre. Les mages débarquent, sont porteurs d'une nouvelle dérangeante pour lui, puisqu'elle compromet sa position. Il apprend d'un seul coup qu'il a un dauphin, mais il n'avait pas prévu ça. Et donc l'identité de son dauphin, ça va forcément l'intéresser. Donc on peut imaginer que la venue des mages crée un malaise. Mais diplomatie oblige, on s'arrange, on négocie. Donc les mages sont convoqués et habilement Hérode s'intéresse à leur récit. Il va même jusqu'à leur demander c'était quand, à quelle date. Donc il s'intéresse à l'astrologie. Finalement, Il convoque tout ce qu'il y a de mieux en termes de savants, de scribes. Il convoque les religieux, les académies, les scribes, etc. Et il finit par déclarer et donner au mage l'information clé. Vous avez raison, un nouveau roi est né, c'est à Bethléem. Et dès que vous avez l'info, revenez me dire que j'aille aussi le voir. Donc ça, c'est le côté très pragmatique. En fait, ils ont découvert un fait, ils se rendent sur place, ça crée des difficultés. Ils ont le renseignement, parce que jusqu'alors, ils avaient vu l'astre, mais c'est tout, quoi. Donc ils ont l'information clé, ça se passe à Bethléem. Et là, c'est le troisième point que j'aimerais souligner, ils entrent dans une nouvelle dimension. Fort de cette information, les mages reprennent la route, probablement de nuit, puisque voilà que l'astre qu'ils avaient repéré chez eux leur apparaît à nouveau, et qu'ils avancent avec eux. Imaginez l'émotion. D'ailleurs, le texte dit « ils se réjouirent d'une très grande joie ». C'est trop redondant. Se réjouir, c'est déjà bien, mais d'une très grande joie, c'est quand même beaucoup. Et ils n'ont plus qu'à suivre l'astre. C'est là qu'ils entrent dans une nouvelle dimension. Jusqu'alors, ils étaient dans le connu, c'était leur métier d'interpréter les astres et de les lire et d'en tirer des enseignements. Mais voilà que ce sont les astres qui leur parlent. Donc le dialogue s'inverse en quelque sorte. On peut vraiment dire une irruption du surnaturel dans leur vie. C'est pour ça que je parle de nouvelles dimensions. On a examiné trois points. L'impulsion de départ, le côté pragmatique et puis la survenue du surnaturel de cette nouvelle dimension. Alors quelles leçons pourrions-nous tirer de ces trois choses? Comment les mages peuvent-ils nous inspirer 2000 ans après l'événement, parce qu'il s'agit quand même d'un événement, relaté dans l'évangile de Matthieu? Alors je propose que cette démarche, leur démarche, puisse nous servir de représentation de la façon dont nous pouvons nous aussi répondre à l'appel de Dieu. Donc je propose de reprendre en fait les trois points. La première étape, je vais l'appeler l'étincelle de la foi, qui correspond à la quête originelle des mages. La deuxième étape, je vais l'appeler le choix d'une religion, l'expérience du croire. Et la troisième étape, je vais l'appeler passer de la croyance à la foi. Je suis convaincu que, sinon dans la vie courante, au moins dans les moments plus tragiques de l'existence, toute femme, tout homme, à l'intuition de Dieu, brille en un lieu secret et enténébré de notre être, et c'est peut-être ça qu'on appelle l'âme, une lumière qui nous incite à devenir spirituellement astrologue, à lever les yeux vers le ciel. Le jour où vient l'envie de se tourner vers le ciel se fait irrépressible. Et là, quelque chose de l'ordre du même ordre que de repérer son étoile et de la suivre commence à nous habiter. Il est probable que pour que l'étincelle, cette étincelle, communique le feu de la quête, cela demande une conscience suffisamment avancée de soi. C'est une première étape que je comparerai volontiers à la démarche des mages, puisque nous avons vu qu'ils sont aussi des sages. Sans démarche vers soi, sans travail pour devenir soi, il est probablement difficile d'avancer vers Dieu. Les deux démarches se sont menées de front. La deuxième étape, c'est le choix d'une religion. De même que les mages se sont rendus à Jérusalem, l'étincelle de la foi oriente celui qui la ressent vers la religion. Parmi les religions, le judaïsme se distingue par l'attente d'un Messie. La place des prophètes annonçant la venue d'un Messie est essentielle dans la Torah. Le christianisme s'inscrit directement dans le prolongement en déclarant Jésus Messie, et plus encore Fils de Dieu. C'est une déclaration inouïe qui a valu à Jésus d'être mis à mort. Donc de la même manière que la religion juive avait organisé une pratique religieuse conforme à ses croyances, les religions chrétiennes ont élaboré des dogmes que ses adeptes sont invités à suivre. L'invitation à suivre des dogmes est une façon de parler, en fait, tant elle a pu être prendre des formes autoritaires au cours de l'histoire. Les formes autoritaires se sont un peu adoucies avec le temps, mais il y a encore de beaux restes, si on peut dire. Si on considère par exemple l'interdiction de se marier pour les prêtres catholiques. Voilà un dogme. C'est une règle imposée par l'autorité papale qui, à mes yeux, manque de douceur. Mais on va aussi chez les protestants. Dans certains courants évangéliques, il y a des dogmes sur la question du salut qui me paraissent manquer aussi de souplesse. Par exemple, la théologie d'un monsieur qui s'appelle John Wesley. Selon cette théologie, le salut est réservé à ceux qui ont vécu l'expérience de la réception de l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Il arrive que certains courants évangéliques considèrent qu'ils ont la clé pour valider cette expérience. Et à partir de là, ces églises évangéliques considèrent que ceux qui n'ont pas eu la validation sont exclus. Et donc, être exclu du salut, c'est aller en enfer. Et il y a des gens qui pensent ça. Donc, en bref, le choix d'une religion qui donne à croire des dogmes inspirés des Écritures est important. Mais il n'est qu'un passage vers la foi. Il me semble que l'enseignement de Jésus, qui prêchait dans les synagogues, va dans ce sens. C'est à mon avis comme cela qu'il faut comprendre ce qu'il dit lorsqu'il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». La troisième étape, c'est le passage de la croyance à la foi. Souvenons-nous du changement qui s'est opéré dans le périple des mages lorsqu'ils ont quitté Jérusalem. Ils ne sont plus dans les calculs savants d'astrologie qui les avaient conduits à détecter l'astre du roi des Juifs qui vient de naître. La relation s'inverse. C'est maintenant l'astre qui les guide et ils le suivent. De la même manière que sur la base de l'élan pris dans notre expérience humaine, d'une quête de soi qui conduit à une quête de Dieu, après avoir été instruits plus ou moins adroitement par le choix d'une religion, nous sommes conduits à faire l'expérience surnaturelle et personnelle d'être guidés par Dieu. Je trouve que le symbole de l'étoile est magnifique. Il nous invite à lever les yeux vers le ciel et à entrer dans une forme de poésie à l'écoute de l'appel du vrai Dieu. Les mages sont venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Jésus n'a pas démenti sa qualité de roi. Souvenez-vous, devant Pilate, Jésus dit, alors que Pilate lui dit, il paraît que les gens disent que tu es un roi des Juifs, c'est toi qui le dis. Et il ajoute, mon royaume n'est pas de ce monde. Compliqué pour nous, je trouve. La question se pose alors à nous, invités à devenir ses disciples en ce début d'année 2026, après 20 siècles de transmission de son enseignement, de quel royaume sommes-nous les sujets? L'évangile de Matthieu contient six paraboles du royaume. Philippe nous en a lu deux. Et je reprendrai la deuxième. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme prend et enfouit dans 3 mesures de farine, si bien que toute la masse lève. Le levain agit comme un ferment. Les paraboles ont l'avantage sur les dogmes d'être intemporelles et universelles. Retenons donc l'idée qu'au-delà du dogme, être chrétien, c'est être sujet du royaume dont Jésus est le roi, même s'il dit que je ne suis pas, mon royaume n'est pas de ce monde. Et être sujet du royaume des cieux, c'est être dans une relation de fermentation avec lui. Le levain, ça fait quoi? Ça fermente. Donc je vous souhaite une bonne année 2026 dans le royaume des cieux et une bonne relation de fermentation avec Dieu. Amen.